les éco-ateliers. Des rencontres inspirantes avec les acteurs de la transition écologique et solidaire. Proposé par Audrey. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je me retrouve avec Thomas qui est artisan savonnier sur la commune de Pont-d'Isère. Il va nous parler de son métier, de ce qu'il fait. Mais avant Thomas, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours ?
Oui, bonjour. Donc moi c'est Thomas, j'ai 36 ans. Je viens de la région parisienne à la base où j'ai fait mes études de laboratoire. Et durant mon cursus en fait, on nous a vendu justement du labo. On nous a vendu que ça comme avenir. On se voyait plus comme ceux qui allaient découvrir le nouveau vaccin contre le sida. Et en fait, on nous dit non, vous finirez laborantin à faire juste des prélèvements. Donc ça nous a fait un peu peur. La plupart, on avait tous abandonné notre cursus. Et pour le coup, on avait besoin de prendre l'air, vraiment changer du tout au tout. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans l'animation avec les enfants, puis avec les ados. Puis après, à me professionnaliser dans le métier, parce que je trouvais ça vraiment cool. Donc sur la filière artistique culturelle, donc focalisé sur les 15-25 ans, puis passer sur le volet social, tout ça pour se dire qu'en fin de compte, plus je travaillais pour les autres enfants, moins je voyais les miens. Et qu'il fallait remettre un point mort, qu'est-ce qui était important pour soi, et qu'est-ce qui est important pour mes propres enfants aussi. Donc c'était faire le point, arrêter tout, se dire qu'en fait je pourrais travailler pour moi. Qu'est-ce qui serait bon pour mes enfants, c'est de consommer mieux. Qu'est-ce que je sais faire de mes 10 doigts? Donc, qu'est-ce que je sais faire de mes doigts? C'était surtout, j'avais surtout des bases de chimie. Et donc, je suis revenu à fabriquer tout par moi-même. J'ai ressorti toutes mes fiches du lycée, de fac et compagnie pour essayer de replonger dedans après presque 15 ans. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, ça s'est un peu propagé à travers les amis, la famille, etc. Avec ma femme, on s'est posé la question, est-ce que ça serait bien d'en faire profiter les autres gens et de monter une entreprise là-dessus. Et on s'est dit, allez, on se lance, on verra bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé Vers chez soi.
En t'écoutant parler, ça me fait tout de suite penser à l'ikigai. Je ne sais pas si ça te parle, c'est une méthode, je dirais par le nom que c'est japonais, en fait, pour un peu trouver son métier idéal. Ça regroupe trois axes, ce que je sais faire, ce que j'aime faire et ce dont le monde a besoin. Et en fait, en écoutant ton parcours, je pense immédiatement à ça. Je pense que tu as trouvé ton ikigai. Tu viens d'introduire du coup Vers chez soi, qui est le nom de ton entreprise. Du coup, qu'est-ce que Vers chez soi? Qu'est-ce que tu proposes?
Alors, c'est une bonne question parce que ce que je propose a tellement changé aussi depuis le début. Initialement, donc, je fabriquais un savon universel. Donc pour tout le monde, pour toutes les peaux, etc. Et ce savon servait aussi comme détachant, comme produit de base pour faire de la lessive ou n'importe quoi. Et donc je suis arrivé sur le marché du travail, sur le marché même hebdomadaire, j'ai envie de dire, hein, les vrais marchés, en me disant, tiens, mais je suis parti pour vendre du savon que je râpais, que je vendais en copeaux, en me disant, mais tout le monde fabrique les produits eux-mêmes, bien sûr. Et avec le temps, avec l'envie et aussi avec les demandes du public, en fait, j'ai étoffé la gamme. Alors surtout entretien au début, je suis parti sur fabrication du savon noir, des produits pour la vaisselle, pour le lave-vaisselle. Et ensuite on m'a demandé, mais Thomas, c'est bien ce que tu fais, c'est cool, mais on aimerait passer par toi et pas avoir à faire 36 000 démarches pour avoir d'autres produits cosmétiques. Il a fallu plancher sur pas mal de nouvelles formules pour sortir une gamme de cosmétiques plus complète. Pour compléter toute la salle de bain, du déodorant, dentifrice, le savon liquide ou le savon solide. Et donc Vers chez soi, c'est ça que ça regroupe. En fait, c'était l'idée de construire du produit avec un minimum d'ingrédients qui soit le plus naturel possible. Et quand on le peut, avec de la matière le plus locale possible. Tout ça, c'était pour proposer des produits que tout le monde peut se servir, qui ne polluent pas la peau et qui ne polluent pas l'environnement surtout. Parce que, encore une fois, je reviens sur le fait que qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Donc le principe, c'était ça. D'éduquer mes enfants à consommer en zéro déchet, avec des produits sains, en espérant qu'ils prennent le relais un jour et qu'ils le fassent eux-mêmes. C'est pour ça que je vends aussi énormément de produits en vrac, pour que les gens fassent par eux-mêmes. S'ils ne veulent pas acheter de produits finis, ce n'est pas grave, qu'ils n'hésitent pas à fabriquer leurs produits eux-mêmes. Et dans ce cas-là, ils peuvent tout trouver aussi auprès de moi.
Et notamment, tu proposes des coffrets où, par exemple, pour fabriquer un produit, tu regroupes les différents ingrédients qui le composent. Tu le fais toujours, ça, ou pas?
Alors, oui, en fait, il y a un produit en particulier, donc le kit lessive, que je vends sous cette forme en fait pour deux raisons. La première, c'est effectivement, beaucoup de clients m'ont demandé de fabriquer leur lessive eux-mêmes, mais sans avoir de formule. Et sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, donc ils ne voulaient pas prendre de risques. La deuxième raison, c'est parce que je vends en ligne aussi. Aujourd'hui, c'est un peu indéniable, malheureusement. Et vendre en ligne du liquide, c'est pas possible pour moi parce qu'il faudrait que j'achète du verre parce que je suis pas plastique. Et envoyer du verre avec un litre de lessive dedans, ça fait très lourd, donc plus d'empreintes carbone, plus cher aussi les frais de port. Et la casse, etc., donc compliqué. Donc c'était aussi la possibilité de vendre ma lessive directement, en fait, l'envoyer par Internet pour faire un atelier ludique, même avec les enfants, etc. Donc vu qu'il n'y a aucun danger d'utiliser ce produit.
Oui, et c'est vrai que je pensais coffret aussi, mais c'est des coffrets. Enfin, j'ai vu à Noël, tu as fait ça. C'est des coffrets découvertes, en quelque sorte. Tu as des thématiques de coffrets ?
Et tout à fait. Donc, en fait, j'ai un coffret qui reste à l'année. En fait, c'est le coffret découverte qui se compose selon son budget, concrètement, hein, et où on peut retrouver tous mes produits solides à l'intérieur. Comme tu en parlais, à Noël, donc j'ai sorti des coffrets, donc c'est soit vraiment salle de bain, donc dans lequel on retrouve aussi des accessoires zéro déchet, qui ne sont pas de moi, mais je travaille donc justement qu'avec des indépendants ou des toutes petites entreprises françaises qui ont à cœur de travailler avec des produits locaux et qui ont à cœur de travailler vraiment pour nettoyer un peu la planète de tout ce qui se jette tout le temps et de faire du durable, surtout du durable en fait. Donc ouais, j'ai fait coffret salle de bain, il y avait coffret cuisine, ça c'est des coffrets qui fonctionnent pas mal. Et là, récemment, j'ai sorti maintenant un coffret 100% cosmétique ou un coffret 100% entretien, où on retrouve dedans que du produit zéro déchet qui va servir pour justement assainir sa maison ou sa salle de bain. Et en plus, vous vous rendez compte que même une salle de bain zéro déchet, en fait, ça ne prend aucune place.
Donc revenons à ton premier produit, ton produit un peu phare même, le savon. Peux-tu nous expliquer comment tu le fabriques ? C'est le processus de la saponification à froid. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et la différence peut-être avec la saponification à chaud ?
Alors pour les adeptes de la saponification, je vais quand même vulgariser pour essayer de rester intelligible. Alors la saponification à froid, elle est assez simple sur le papier. Donc on prend n'importe quelle huile ou gras, donc n'importe quel triglycéride, si ça vous parle, auquel on va ajouter en fait de la soude. Et simplement, en fait, la réaction chimique qui va se créer, c'est que la soude va saponifier les triglycérides pour créer de la glycérine et du savon. Jusqu'ici, c'est assez simple. Sur le fonctionnement, c'est un peu dangereux parce que la soude, c'est très très alcalin. Hein. On est à 13,9 à peu près, hein, sur une échelle de 1 à 14. C'est quand même pas mal. Donc là, le but, c'est surtout nous que la réaction de la soude avec les triglycérides en fait, va produire de la chaleur. Nous, ce qu'ils font sur de la saponification à froid, c'est faire en sorte que ça ne dépasse pas une certaine température. Perso, je fais en sorte que ça ne dépasse pas les 40 degrés. Donc, je travaille le plus à froid possible, parce que travailler le plus à froid possible, c'est garder un maximum d'éléments nutritifs et de vitamines en fait, qui sont dans les huiles. Et le garder piégé dans le savon, c'est ça qui nous intéresse. L'autre particularité du savon à froid, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire une adjonction d'huile supplémentaire, en mettre plus qu'il n'en faut, pour piéger cette huile dans le savon et faire un savon surgras. Et donc c'est ce surgraissage qui, on va dire, ça rend, en général on dit, ça nourrit la peau, ça hydrate la peau. C'est pas tout à fait vrai, en fait, c'est un peu plus chimique aussi, mais en fait ça vient nourrir une couche spécifique de la peau qui garde l'eau, une poche de graisse qu'on a en fait sous la peau. Et en fait ce surgras, lui, va nourrir ça. Donc effectivement, on va mieux garder l'eau sur notre peau, donc on aura la peau moins sèche. La différence avec un savon à chaud, type savon de Marseille, hein, c'est le plus connu, ou après souvent les savons de supermarché qu'on trouve aussi, des savons qui sont cuits. Donc c'est souvent déjà de l'huile animale, soit du gras de cochon, du gras de bœuf, en fonction de ce qu'on trouve. Vous pouvez voir hein, sur les premiers ingrédients, hein, je vous le dis à ceux qui lisent les étiquettes, ça s'appelle, c'est le sodium tallowate, d'accord ? Donc là vous savez que vous achetez un savon à la graisse de bœuf. Ces savons à chaud en fait sont cuits, donc on va prendre l'exemple du savon de Marseille, qui est même un bon savon, hein. Donc un savon de Marseille authentique et donc va être cuit au chaudron pendant une bonne dizaine de jours à 120 degrés, il faut bien que ça chauffe. Ils mettent plus de soude que d'huile pour que tout soit saponifié complètement. Et ensuite, on va rincer à plusieurs reprises en fait, à l'eau salée. Parce que le sel, lui, il va embarquer l'excès de soude, mais il va aussi récupérer toute la glycérine du savon que je vous ai dit qui sera créé. Il va tout emporter avec lui. Et en fait, on va garder que le savon. Et après ça, en fait, on va le faire sécher à l'air libre pendant plusieurs jours aussi. Et là, donc, on est sur un savon 100% détergent. Mais comme je disais, il est détergent, donc c'est bien pour nettoyer. Mais pour la peau, c'est un peu plus costaud parce qu'il a enlevé toute la glycérine. La glycérine, c'est ce qui vient vraiment adoucir le côté détergent du savon. Et l'autre particularité qu'il pourrait y avoir, c'est peut-être sur le pH du savon, qui peut être un peu plus costaud aussi.
Et c'est pour ça que sur des savons, alors soi-disant de Marseille, mais qui sont potentiellement chinois, qui sont vendus pour le corps, ils rajoutent la glycérine qui a été perdue au procédé. J'avais lu ça quelque part.
Alors oui, parce que en termes de coût, cuire un savon coûte beaucoup moins cher en fait que le faire à froid. Le fait de faire cuire le savon et de les nettoyer, ils vont perdre leur glycérine. Mais pareil, en fait, on retrouve de la glycérine même végétale, pas chère, facilement, parce que de toute façon, on en fait énormément grâce à l'huile de palme. Chacun pense qu'il veut de l'huile de palme, mais voilà, aujourd'hui, on trouve beaucoup de glycérine végétale issue de la palme. Et donc, en fait, il suffit d'en remettre dedans pour retrouver ce côté un petit peu voilà, cosmétique, on va dire. Mais sur un savon qui est vraiment, pour moi, complètement dénaturé.
Donc voilà, si vous trouvez, alors souvent en grande surface, hein, je ne sais pas si on peut trouver aujourd'hui des savons saponifiés à froid en grande surface. Je n'ai pas regardé, ça se tenterait, mais j'y crois pas trop. Si vous trouvez un savon de Marseille, déjà s'il est violet et qu'ils sont à fond là en vente, c'est pas un vrai savon de Marseille, déjà c'est un indicatif. Parce que c'est vrai que c'est compliqué de lire les étiquettes, ils gardent les noms latins, enfin ils noient le poisson en fait avec leur liste d'ingrédients à rallonge, des noms qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas interpréter. Donc vaut mieux déjà partir sur, c'est pour ça que je vous conseille de partir sur un savon fait à froid, en passant par un artisan, surtout qu'aujourd'hui on en trouve assez facilement autour de nous. Et voilà, et de ne pas tomber dans le piège des savons industriels surtout. Même si maintenant, avec le greenwashing, ils vous vendent ça comme... voilà, ils mettent en avant les ingrédients naturels, mais derrière, il y a plein de trucs. Mais je sais pas si tu veux réagir déjà sur ces ingrédients-là qui ont des noms tout bizarres.
Ah, ces fameux ingrédients aux noms bizarres. Donc déjà, première chose, c'est que c'est la réglementation européenne et même internationale, hein, où il y a une nomenclature internationale avec les noms scientifiques des ingrédients pour que partout où on puisse aller, justement, si on va chercher un cosmétique, justement, on puisse le dire internationalement. Tout le monde comprend ce qu'il y a dedans, sauf le consommateur, pour le coup, qui n'est pas forcément au fait de tout ça. Mais voilà, ça, c'est la réglementation. Des fois, c'est à rallonge. En fait, si c'est à rallonge, c'est parce que c'est une chance d'ailleurs aussi. En cosmétique, le fabricant est obligé de marquer tous les ingrédients, même si c'est juste une goutte dans 1000 litres, il est obligé de mettre ce qu'il y a dans cette goutte sur l'étiquette. C'est une obligation légale. Alors c'est une bonne chose aussi, sauf que bah, c'est là où on voit ceux qui mettent beaucoup d'ingrédients, où il y a des listes à rallonge en effet. Plus les listes sont maigres, plus elles sont fines, plus le produit en soi, ça sera un bon produit, je pense. Après, effectivement, il y a des applications, il y a des sites aussi internet qui vous éclairent facilement sur ces noms de produits. Après, voilà, ça c'est vraiment autre chose à dire, c'est ce qu'on dit nous sur tous nos articles sur le site. C'est de bien lire les étiquettes et si on ne les comprend pas, d'aller à la pêche aux infos. Aujourd'hui, je ne veux pas dire tout le monde, mais pratiquement tout le monde a internet connecté sur son téléphone. Donc, pas hésiter à aller jeter un œil au moins sur le premier ingrédient. Parce que la liste des ingrédients, c'est toujours dans l'ordre l'ingrédient le plus présent jusqu'à l'ingrédient le moins présent. Donc au moins regarder le premier, voire le deuxième, pour savoir, ça va pratiquement être 80% du produit sur les deux premiers ingrédients. Donc n'hésitez pas au moins à fouiller à travers ça. Et si vous voyez tensioactif, sachez que tensioactif, même s'il est marqué d'origine végétale, tensioactif est un produit chimique, 100% chimique, absolument pas du tout naturel, extrêmement polluant à la fabrication. Donc faites attention aussi à ce que tu disais, Théa, au greenwashing, en disant c'est naturel. Non, ça ne l'est absolument pas du tout.
Alors le tensioactif, lui, il sert à, de ce que j'avais lu, hein, tu me corrigeras si je me trompe, mais des fois à donner le côté moussant des produits et à créer aussi, à faire que des phases huileuses et plutôt aqueuses se mélangent bien, en fait, à avoir une bonne texture du produit, c'est ça?
Voilà, tensioactif, c'est celui qui va réduire la tension entre les deux principes qu'on met dedans. Donc effectivement, donc une phase huileuse, une phase aqueuse, on les mélange, ça donne rien. En fait, l'huile va toujours remonter parce que la densité est bien plus faible. Donc là, en fait, le tensioactif est là pour homogénéiser. Et après, on en a toutes sortes. Il y en a qui vont être plutôt détergents, qui vont être plutôt moussants, d'autres qui vont être plutôt comment dire, adoucissant, etc. Et c'est pour ça que souvent, l'utilisation d'un engendre l'utilisation de l'autre, puisque celui-là mousse, mais il irrite. Donc il faut quelque chose qui adoucit. Mais celui qui adoucit, il va procurer de la sécheresse. Donc il faut trouver quelque chose qui va être un peu plus émollient. Voilà. Et on se trouve avec une liste de 15 ingrédients, juste pour contrebalancer les effets indésirables du premier.
Oui, donc du coup, c'est le cercle vicieux, quoi. On en met un, il faut en rajouter un deuxième, un troisième, etc., etc. Donc en gros, se contenter des produits les plus simples possibles, avec le moins d'ingrédients possibles, c'est une garantie de qualité en général.
Après, effectivement, il y a la manière dont il va être fabriqué, mais oui, la plupart du temps, moins il y aura d'ingrédients dedans, plus le produit sera sûr. À savoir que tout produit cosmétique passe par un toxicologue et doit être validé au niveau d'un toxicologue sur la partie sécurité pour être sûr de pouvoir le mettre en vente.
Et donc revenons à toi, ta manière de travailler. Du coup, tu travailles, tu t'es fait un labo dans ta maison. Comment tu travailles ?
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on s'est lancé avec ma femme en se disant « Est-ce qu'on fait une entreprise ?» Oui. Et c'était un petit peu aussi notre manière de dire « Mais on veut fonctionner un peu à contre-courant. » C'est-à-dire, c'était hors de question de faire appel à une banque, c'était hors de question de passer par des bailleurs, de faire des frais, de faire toute une économie sur laquelle on est contre. Le fait de faire fonctionner les banques surtout. Et on s'est dit, on va tout faire par nous-mêmes. Donc effectivement, chez moi, en fait, j'ai fait énormément de travaux pour faire un labo qui correspond aux normes de fabrication cosmétique. Parce que là, c'est pareil, quand on déclare à l'ANSM, enfin, l'Agence Nationale de Santé et Médicaments, donc obligé de se déclarer en tant qu'établissement fabricant, bah, c'est pareil, il faut correspondre à une charte spécifique. Donc il a fallu faire des travaux là-dessus pour le faire soi-même. Après, il a fallu faire des moules, donc j'ai fait tous mes moules moi-même au début. Bon, après, j'ai fini par en acheter parce que les moules en bois, ça marche un peu, mais ça marche pas longtemps. Je travaille tout seul à la production et surtout, comme j'ai dit, j'ai fabriqué pas mal de choses tout seul et je travaille toujours qu'à la main. En fait, tout ce que je fais, je le fabrique à la main. Ça va de la poudre de la vaisselle, ça va même mes pierres d'argile, les cakes vaisselle, tout est fabriqué à la main. J'utilise pas de machine. La seule machine que j'ai, c'est mon gros mixeur, justement, pour mélanger mes huiles et la soude. Là, je mettrai pas la main dedans. Et sinon, tout le reste, je le fais à la main. Voilà.
Et donc, vous travaillez en couple. Leslie, c'est plus le côté communication, si j'ai bien suivi.
C'est un peu ça, ouais. Alors là, comme c'est vraiment découvert une passion à travailler pour Vers chez soi, à ouvrir tout ce qui est compte réseaux sociaux, faire de l'affichage, de la pub, des petits films de promotion. Des petits tutos qu'elle fait aussi pas mal. C'est elle aussi qui a ouvert la gamme zéro déchet de l'entreprise et qui s'occupe du démarchage aussi des épiceries avec lesquelles on travaille.
Est-ce que tu t'imaginais en lançant Vers chez soi que tu découvrirais plein de métiers différents ?
Concrètement, quand j'ai lancé l'entreprise, je m'attendais à rien du tout. Je me suis dit, je vais faire mon savon, je vais faire un peu de produits ménagers et ensuite je mettrai ça sur le truc. Et effectivement, j'ai découvert... pléthore de métiers, rien que déjà par rapport à moi, je ne pensais pas que je serais autant comptable, administratif, enfin tout ce qui me plaît le moins, on va dire, dans le métier. Et oui, et puis surtout la richesse de travailler en réseau avec d'autres artisans, de se faire bosser les uns les autres, de travailler sur les marchés. Il y a un monde sur les marchés que j'aurais pas soupçonné quand j'y allais en tant que client qui fait son marché. Il y a une vraie entraide entre les gens, il y a toujours un coup de main, il y a toujours de la bienveillance.
Donc tu parles des marchés, est-ce que tu penses les reprendre avec les beaux jours là ?
Oui, bien sûr. Alors les marchés, c'est vraiment le premier élément de com' qu'on a déjà en tant qu'artisan. Et c'est un super moyen de faire de la pédagogie. Parce que les gens qui peuvent se poser sur des questions sur « Ah, c'est quoi ces petites tomes de chèvre ?»« Mais non, madame, c'est pas des tomes de chèvre, c'est pour faire la vaisselle. »« Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ? Et comment ça marche ?» Voilà, c'est un moment où on peut dire aussi, expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, à quoi ça sert, et qu'en plus ça marche. Et ça, c'est assez formidable. C'est un des meilleurs outils que je connaisse en termes de com et en termes de pédagogie.
Et bah, du coup, où est-ce qu'on peut retrouver tes produits ? Tu t'es fait un petit espace vente à domicile, mais je sais que tu es distribué par d'autres professionnels. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Tes produits, toi aussi, mais tes produits.
Donc moi, essentiellement, on me trouve chez moi, hein, la plupart du temps, effectivement, donc à Pont-de-l'Isère, en face de la poste. Donc on me trouve sur Google, on me trouve sur Internet, déjà pas mal pour trouver l'adresse, c'est assez simple. Je suis à côté de la Nationale. Sinon, on trouve mes produits à Tournon, vous me trouvez à Distriferm, au délice de la ferme ardéchoise, ça dépend des noms, qui est vers l'hôpital. Et sinon, après, on me trouve dans pas mal d'autres magasins, alors toujours indépendants. Je travaille pas avec des chaînes, pas encore, pour l'instant. C'est pas encore dans le circuit, mais peut-être qu'il faudra y venir, on verra. Et pour l'instant, on me trouve donc un peu partout en France, dans des épiceries vrac. Voilà.
Et donc, pour te trouver sur Internet, donc c'est Vert chez soi, Vert orthographié V-E-R-T. Voilà. Est-ce que tu as l'adresse du site Internet complète en tête ?
Elle est simple, hein, donc vertchezsoi.com. Donc, c'est V-E-R-T-C-H-E-Z et un petit tiret du 6, S-O-I.com. Donc, et donc pour moi, si vous voulez voir la boutique, donc il y a les horaires affichés sur Facebook, affichés sur, sur Google, un peu partout. Vous trouvez mes horaires d'ouverture et vous me trouverez donc au 5 Impasse du Sonneur, Pont 18R.
Je voulais juste une dernière question, avoir un peu les best-sellers du moment. Je crois que tu as lancé des gammes au niveau cosmétique qui marchent pas mal. C'est quoi un peu les best-sellers de Vert chez soi ?
Alors, le best-seller de tous les temps, ça restera mon savon Le Castillan, en fait celui qui est à l'origine de toute l'entreprise. Donc ça, c'est une petite fierté parce que lui, il reste indétrônable. Et ensuite, là, il y a eu un petit nouveau-né qui est arrivé à peine cet été et qui est déjà en deuxième place. C'est le baume au beurre de karité. Enfin, il faut dire qu'il est formidable aussi, puisqu'il sert vraiment à tout. Hein. Il sert pour la peau, pour le démaquillage, pour les petits boutons de moustique, les brûlures, les coups de soleil... Les points de cheveux, les ongles, ils servent. C'est vraiment le baume SOS, le baume multi-usage. Juste derrière, il y a le déo qui commence déjà à faire son apparition, alors que lui, il n'arrivait qu'en septembre. Le déodorant solide. Ça, c'est, on va dire, les top 3 cosmétiques, c'est vraiment sur eux. Le dentifrice, je pense qu'il va faire son apparition dans peu de temps. C'est que les gens sont encore un peu réticents à passer au solide, mais dès qu'ils auront testé. Tous ceux qui ont testé, maintenant, ils n'arrivent plus à revenir à la pâte industrielle. Hein. Ils sont tous restés dessus. Donc, n'hésitez pas à essayer.
Voilà, exactement. Tester, c'est l'adopter, j'ai envie de dire. Donc, je vous invite à venir rencontrer Thomas chez lui ou si vous le croisez sur un marché. Et surtout, allez voir son site internet, allez voir Facebook. J'aime bien aussi les articles que tu publies sur ton site. Il y a des bonnes réflexions, donc c'est intéressant, allez les lire. Et voilà, et puis essayez un produit, puis un deuxième, puis un troisième. Voilà, faites-vous votre propre avis sur la gamme de produits cosmétiques solides, sur le vrac. Voilà. Le petit mot de la fin, Thomas ?
Petit mot de la fin, c'est bien de me prendre le piège comme ça. Je dirais oser, en fait, oser changer. Et changer, ça ne veut pas dire de tourner la page complètement du jour au lendemain. C'est essayer un petit quelque chose un jour. C'est-à-dire peut-être aujourd'hui on va arrêter le liquide vaisselle ou peut-être on va arrêter le gel douche ou on va essayer autre chose. C'est pas tout de suite transformer sa maison et jeter tout ce qu'on a, etc. C'est y aller au fur et à mesure, se faire confiance aux artisans qu'on a dans le coin. On est quand même beaucoup maintenant dans le coin à vous proposer des choses différentes. N'hésitez pas à les essayer chez les uns, chez les autres. Comme tu disais, c'est essayer, c'est l'adopter. C'est-à-dire que vous vous rendrez compte que utiliser quelque chose de sain, ça ne coûte pas forcément plus cher. Et ça marche même mieux, je dirais. Ça marche mieux parce qu'il n'y a pas de poudre aux yeux. Hein. Ce n'est pas de la magie. Là, c'est vraiment quelque chose qui est fonctionnel. Et pour le coup, on ne pollue ni chez soi, ni soi, ni la planète.
Bah écoute, c'est parfait. J'ai rien à rajouter. Et c'est terminé pour aujourd'hui. Puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle interview. À bientôt. C'était les éco-ateliers proposés par Audrey.